Bienvenue à l'Église réformée du Bouclier à Strasbourg. Nous sommes heureux de vous proposer la méditation de ce dimanche. Je vous invite à réécouter ce texte de l'Évangile de Marc au chapitre 10 qui parle du couple parce que la question est posée à Jésus à partir de la séparation. Des foules s'assemblent auprès de Jésus. Quelques pharisiens s'approchent de Jésus pour lui tendre un piège. Ils lui demandent « Notre loi permet-elle à un homme de renvoyer sa femme ?» Jésus leur répond par cette question « Quel est le commandement que Moïse vous a donné ?» Ils répondent « Moïse a permis à l'homme d'écrire une lettre de divorce pour renvoyer sa femme. » Alors Jésus leur dit « Moïse a écrit ce commandement pour vous parce que vous avez le cœur dur. Mais au commencement, quand Dieu a tout créé, Dieu les fit homme et femme, est-il écrit. À cause de cela, l'être humain quittera son père et sa mère, et les deux deviendront comme une seule personne. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais comme une seule personne. Ne séparez donc pas ce que Dieu a uni. Amen. Face à la question de la séparation, l'évangile de Marc, ou Jésus dans l'évangile de Marc, répond en deux temps, qui pour moi sont très importants, je vais les reprendre. Un premier temps, c'est Moïse, et le second temps, c'est la Genèse. L'être humain quittera son père et sa mère. Il répond avec Moïse, ce qui pour l'époque correspond au rapport à la loi. C'est le grand législateur, aujourd'hui on dirait le code civil. Et puis la Genèse, ce sont les fondements, les principes, comme pour reposer la question, en fait, c'est quoi un couple? Je reprends les deux temps. Jésus répond par la loi. Que dit la loi? Que l'homme peut écrire littéralement, j'aime pas le mot, mais c'est souvent traduit comme ça, une lettre de répudiation. C'est une lettre, apparemment, que l'homme était obligé de donner comme un document qui permettait à l'épouse soit de réintégrer la famille de son père, on est dans une société patriarcale, encore au 1er siècle, et qui lui permet aussi de se remarier. C'est-à-dire, c'est un document qui donne à la personne la plus fragile, au 1er siècle, la femme, qui lui donne une possibilité de poursuivre sa vie et de recommencer aussi une vie de couple. L'homme ne peut pas faire n'importe quoi. C'était il y a 2000 ans, ce qui est déjà pas mal. La loi de Moïse, ou en tout cas les réglementations en cours, de manière imparfaite, tentait de protéger la personne la plus faible, qui ici est la femme. Était-ce bien appliqué? Les commentateurs disent que dans les couches sociales élevées, dans les villes, ça devait se faire, mais dans les campagnes, on ne sait pas très bien. Pour moi, dans ce texte, Jésus ne légitime pas le divorce, mais il ne l'interdit pas. Il constate la séparation. Il constate qu'il y a un échec dans une relation et il voit que la loi, Moïse, sont là pour éviter le pire, pour protéger la personne la plus faible et lui donner un avenir. Comme il constate un échec et fait rappeler la législation en vigueur, je crois que cela est important à rappeler, notamment dans la conception protestante du couple. Le mariage n'est pas une assurance contre l'échec, ni un brevet de réussite, et rien ne garantit jamais l'avenir. J'ai cité l'exemple de mes trois frères. Alors comment comprendre aussi cette parole à la fin, quand Jésus dit que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni ? Le mariage est-il indissoluble, comme le disent nos sœurs et frères catholiques ? Je pense que non. Ce qui est indissoluble ici, ce n'est pas l'institution juridique qui lie deux personnes, mais ce qui est indissoluble, c'est le couple. C'est ce qui a été vécu. On ne dissout pas, on n'efface pas, on ne supprime pas tout ce qui a été vécu. Que ce soit une personne veuve, ce qui a été vécu reste indissoluble. Que ce soit une personne mariée puis divorcée, ce qui a été vécu reste indissoluble. Ou que ce soit pour une personne ayant partagé sa vie avec une autre, ce qui a été vécu reste indissoluble. On n'efface pas cette intimité, cette proximité, ce partage si fort de la vie à deux. C'est pourquoi lorsque je reçois un couple au nom de l'Église et que ce couple me demande de préparer cette étape heureuse de la bénédiction, je leur demande de bien prendre en compte le passé de chacun, de ne pas faire comme si le passé n'existait pas, de ne pas le dissoudre. Que l'on soit veuf, divorcé, séparé ou après une vie commune, le couple qui se forme ou qui se reforme porte, qu'il le veuille ou non, l'histoire passée de l'un et de l'autre. Non pas comme une faute, non comme une tare, mais comme une réalité à ne pas ignorer, à ne pas dissoudre. La possibilité de couple, de commencer, de recommencer est toujours là. C'est une idée à laquelle le protestantisme est très attaché. Un nouveau mariage est regardé favorablement par Dieu. Il y a une bénédiction. Voilà pour la loi. Les principes. Dans un second temps, Jésus va citer les vieux livres, les vieux textes de la Genèse. Il dit « Dieu les créa hommes et femmes, c'est pourquoi l'être humain quittera son père et sa mère. » Et alors il y a deux modifications entre le texte de Marc 10 en grec et le vieux texte hébreu de la Genèse. Une première modification, c'est que dans la Genèse il est marqué « l'homme, le mâle, quittera père et mère » et Jésus transforme en disant « l'être humain quittera père et mère ». On voit là ce qu'on retrouve dans d'autres passages du Nouveau Testament, cette idée de la réciprocité, ce qui est valable pour l'un, pour l'homme, est valable pour l'autre, pour la femme. Et là, ce n'est plus l'homme qui quitte père et mère, le mâle, mais ce sont les deux qui sont dans une même démarche, une même situation. Je ne dirais pas d'égalité, on est au premier siècle, mais en tout cas de réciprocité. Et puis, autre modification dans ce texte, Jésus dit « il les créa mâle et femelle, mais il ne cite pas la suite, croissez et multipliez-vous ». D'ailleurs, il y a certains manuscrits qui l'ont rajouté. Jésus, ici, déconnecte le couple de la fécondité. Il dissocie le couple de ses enfants. On ne se met pas en couple pour produire des enfants, mais on se met en couple pour vivre en couple. Et on peut en procréer. Le but, l'objectif, n'est pas de faire des enfants, mais de vivre en couple. Et en oubliant cette partie de la citation, « croissez et multipliez », le texte de Marc déconnecte le couple de cette sacro-sainte nécessité de procréer. Et replace le couple au centre de sa démarche. De quoi ne parle-t-il pas, Jésus ? Vous avez vu que dans ce texte, il ne parle pas d'amour. D'ailleurs, j'aime bien poser la question au couple, leur dire « Qu'est-ce qui vous est demandé dans le code civil lorsque vous allez vous marier ? Et qu'est-ce qui éventuellement manque ?» Alors, dans le code civil, il y a le consentement, la vie commune, l'assistance, la fidélité, se nourrir, nourrir l'autre, entretenir, la responsabilité vis-à-vis des descendants, la responsabilité vis-à-vis des ascendants, y compris des beaux-parents, c'est l'article 206. Et puis, il y a une chose qu'on ne leur demande pas, c'est de s'aimer. Et dans le texte que nous avons, Jésus non plus ne parle pas d'amour, comme si le terme était difficile à déterminer. Par contre, il donne ces trois fameux verbes. C'est pourquoi l'être humain quittera son père et sa mère, ils s'attacheront l'un à l'autre et ils deviendront une nouvelle réalité humaine. Quitter, s'attacher, devenir. Trois verbes qui, d'une certaine manière, résument cette démarche du couple, mais en même temps laissent suffisamment flou pour que chacun puisse dire ce que signifie quitter, ce qui signifie s'attacher et ce que signifie devenir. Pour moi, dans quitter, il y a une prise de distance, mais aussi une reconnaissance du coup de là d'où je viens. Je ne pars pas de zéro, je quitte père et mère, c'est-à-dire je m'éloigne, mais je prends aussi avec moi tout ce qui m'a été donné par le père et par la mère. Toute une culture, tout un vécu, toute une histoire. Et dans s'attacher, parfois un peu négatif, comme si ça faisait ficeler, ligoter, mais dans s'attacher, il y a ce terme de lien, lier, relier, mettre ensemble, rapprocher, unir. J'y verrais presque le mot d'alliance. Je ne vis pas seul, je suis lié à l'autre et ma liberté se conjugue alors à deux. Et puis il y a ce terme « devenir » avec toute une ouverture sur l'avenir, non pas une garantie, non pas une assurance. La vie est une succession de déséquilibres contrôlés comme la marche. Voilà pour ce texte de Marc 10. Vous voyez, il n'y a pas de doctrine du mariage. Paul, dans ses épîtres, esquissera quelques réponses pastorales. Les épîtres essaieront d'inscrire le couple dans la durée, dans le cadre de la cité grecque. Comment s'inscrire ? Avec cette notion de la réciprocité. La société citadine grecque bourgeoise dit « Femmes, soyez soumises à vos maris ». C'est ce texte que les couples aiment bien prendre. Alors Paul le prend, il prend ce qui existe. Alors généralement, on s'arrête là. Voilà. Et puis il rajoute « Marie, soyez soumis à vos femmes ». On ne remet pas en cause ce qui existe, on le fait évoluer par cette notion de la réciprocité. La parole de Dieu dans la Bible, telle que la tradition biblique tente de la dire, elle l'a dit dans l'ambiguïté du langage humain, dans la culture de l'époque, dans cette histoire, et essaye de faire voir l'ultime profondeur des enjeux de l'existence humaine. Et dans cette ambiguïté du langage même, des hommes ont tenté d'entendre et de dire une parole pour dire comment ils voient leur foi, leur vie et leur couple. Alors une fois mon frère, un des trois, a demandé à son petit frère « Qu'est-ce que t'en penses du couple ?» C'est toujours délicat en famille de répondre. Souvent la proximité ne permet pas une parole. Alors, j'ai répondu un peu dans cette direction. La fidélité, c'est l'expérience même de la foi, de la confiance. Elle est un croire qui constitue la relation à l'autre. Et quelle que soit la forme que prend la conjugalité, la foi, la confiance est toujours ce qui fonde ce lien à l'autre. Et pour moi, c'est d'abord une parole échangée, qui n'est pas une preuve, qui ne se vérifie pas, Elle est un événement de la parole qui vient là dire ce qui est vécu et qui se dit souvent dans l'intimité d'abord, avec une absence de raison et toujours dans cette écoute de l'autre, dans cette confiance réciproque. On n'a pas d'autre certitude que les mots MOTS qui sont dits. Et s'en remettre à la parole de l'autre, c'est s'en remettre à la foi, à la confiance. C'est pourquoi souvent, les réformateurs ont pris cette image du couple pour dire cette image de la relation à Dieu. Et puis je leur dis aussi, soyons réalistes, le conjoint idéal n'existe pas. Le partenaire est là, bien réel, avec des qualités et des défauts. Et pour la vie du couple, il est indispensable d'en être conscient. Il est important de faire cette démarche, c'est-à-dire d'aimer l'autre pour lui-même ou pour elle-même et non pas pour l'idéal rêvé. Partager sa vie avec un être différent de soi, c'est aussi accepter de ne pas être toujours d'accord. Et le couple évolue selon la nourriture que les partenaires lui fournissent. Le dialogue est important. Une explication courageuse est préférable aux fausses concessions ou aux reproches larvés. Et puis l'environnement aussi interfère dans le couple, il peut le fragiliser ou le consolider. Les choix éducatifs, la famille, les amis, le travail, le chômage, un logement, la question de la santé. Et le couple passe ainsi par des hauts et des bas, des crises et des retrouvailles sur fond de cette confiance, de cette tendresse, toujours à renouveler. J'aime aussi la notion d'alliance qui a été mise en valeur au XVIIe avec Milton, qui compare le couple, cette alliance dans le couple, avec l'alliance que fait le peuple avec son souverain. C'est une sorte de contrat entre deux groupes, entre deux personnes, fondé sur la possibilité de la désalliance. On se met ensemble parce qu'on sait qu'on peut ne pas être ensemble. Et alors il faut, comme l'écrit Olivia Bell à partir de Milton, apprendre à penser le conflit. Il écrit « Le mariage est la gestion courtoise des différends. » Une jolie formule. « La gestion courtoise des différends. » Dans cette alliance, il y a toute une réflexion, un vécu sur le temps et aussi sur les désaccords qui vont venir et la capacité du couple à les prendre en compte, à les dire, à les reconnaître, à les accepter et accepter que la vie n'est pas toujours d'une évidence, d'une facilité, d'une immédiateté. C'est peut-être quelque chose aujourd'hui à rappeler. Lorsqu'à la moindre difficulté, que ce soit en couple, que ce soit dans la vie, en amitié ou à l'école, tout de suite on dit « hop, j'arrête, je vais ailleurs ». Je crois que l'existence humaine, en couple, en église, en société, peut et doit réapprendre cette notion des différends, des conflits et du vivre ensemble avec ces difficultés. L'alliance conjugale est la gestion courtoise des différends. Voilà ce que j'aurais répondu à ce frère. Je ne sais pas si ça l'aurait aidé. Parce qu'en fait, la question du couple, de mon couple, relève aussi d'une intimité qui ne peut pas toujours se partager et se dire. Il y a des aspects dans la vie qui relèvent de cette intimité et qui conduisent l'un ou l'autre sur tel ou tel chemin, qui ne sera pas toujours le meilleur, mais qui sera aussi le moins mauvais. Et je pense que mon frère a bien fait ou a fait moins mal en se séparant. Mais il ne m'appartient pas de dire une vérité qui m'échappe. Alors nous aurons tout à l'heure un repas fraternel et puis aussi un débat qui sera proposé pour que les uns et les autres s'expriment sur cette réalité du couple, de la vie conjugale. Nous pourrons voir comment chacun, chacune voit se quitter, s'attacher, devenir. Alors j'aimerais rappeler cette liturgie de l'arithmétique du couple qui dit un peu ce qui se vit dans un couple. C'est 1 plus 1. Dans le couple, au début, 1 égale l'infini. L'histoire de chaque conjoint est celle de son enfance, de ses parents, de sa famille d'origine. Quand on se met en couple, on n'épouse pas qu'un individu, mais toute une histoire, tout un vécu, qui échappera toujours à l'autre. On ne maîtrise jamais tout ce que l'autre a vécu, mais l'autre est un infini de sentiments, de vécu, de blessures, de bonheur, de confiance. Chacun est un infini. Et puis dans le couple, surtout ceux qui viennent pour la bénédiction, il y a le 1 plus 1 égale 1, c'est le temps de la fusion, du coup de foudre, les contraires qui s'attirent, ce qui se ressemble s'assemble. Il y a un temps pour ça. Et cet état amoureux est caractérisé par un aspect fusionnel, on est seul au monde, on se comprend du seul regard sans s'expliquer. Tu es la plus belle, on s'aimera toujours. Il y a ce temps où 1 plus 1 égale 1 qui n'est pas qu'au début, mais qui revient au cours des années. Ce temps de la fusion où le silence et l'absence de parole ne veut pas dire absence de relation et de vécu. Et puis, il y a ce temps aussi où 1 plus 1 égale 2. L'autre n'est pas parfait, il ne correspond pas à l'image que j'en avais, il ne peut pas combler tous mes manques, ni guérir toutes mes blessures. La mathématique du couple passe de 1 plus 1 égale 1 à 1 plus 1 égale 2. Et si nous sommes deux, nous sommes différents, il faut alors apprendre à dialoguer, à communiquer, à dire, à poser aussi ce qui ne va pas, à la gestion courtoise des différends. Là aussi, on grandit. Et puis dans le couple, il y a ce 1 plus 1 qui égale parfois 3, ou 4, ou 5, ou plus, avec les enfants. Ce qui est une étape aussi importante. Il y a un glissement des générations vers le haut. La fille devient mère, le fils devient père, mon épouse devient mère. Il y a un nouveau statut, un nouveau rôle à apprendre, d'où des réajustements inévitables. Tiens, nous n'avons pas les mêmes manières de voir l'éducation. Et là, il y a à nouveau pour le couple toute une manière de réapprendre à voir qui est l'autre. Lorsque l'enfant devient adulte aussi, la crise de l'adolescence nous renvoie à notre propre adolescence lorsqu'on est devenu soi-même adulte. Et ça réactive un certain nombre de problèmes ou de conflits non résolus. Et puis il y a le départ des enfants lorsqu'on passe de 4 à 3, c'est mon cas, et puis dans 2, 3, 4 ans, de 3 à 2, le syndrome du nid vide. Le couple se retrouve comme couple dominant et moins comme couple parental. Tant que les enfants sont au centre des préoccupations, certaines questions restent secondaires ou aux marges. Lorsque le nid devient vide, c'est le temps aussi des réflexions, de questions nouvelles, et de se reposer la question du pourquoi sommes-nous ensemble, et d'être autre étape. Et puis il y a ce temps aussi, quand on prend de l'âge où 1 plus 1 égale 1, lorsque l'un s'en va, meurt avant l'autre. C'est aussi un temps important, avec tout un passé, toute une reconnaissance et toute une autre étape. Voilà cette arithmétique, ce texte biblique et cette réflexion. Ai-je répondu à mes frères ? Je ne sais pas. Mais pour moi, le couple reste toujours ce bonheur, mais aussi ce défi qui est posé dans un quotidien répétitif, mais aussi année après année, avec des cheveux blancs qui arrivent, un vécu, des départs, des arrivées, des difficultés, des questions fondamentales. Mais après tout, c'est la question de la vie, de la confiance en société, les uns avec les autres et avec Dieu. Amen. Vous venez d'écouter une méditation de l'Église réformée du Bouclier. Bonne route, bonne suite, bénédiction avec tout ce que vous avez reçu en parole qui parle de Dieu, du monde et de vous.